بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعي الإسلام. Nous avons vu différents piliers de la foi cités par le professeur d'Allah en réponse à l'ange Jibril alayhi salam, lorsqu'il avait donc posé des questions au prophète alayhi salatu wassalam pour rappeler aux sahaba les piliers, l'importance du iman. Et on avait vu tout d'abord que le prophète alayhi salatu wassalam avait répondu à l'ange Jibril que la foi, on va s'approcher un petit peu inchallah, que la foi c'est avant tout un tu'mina billahi, c'est croire en Allah. On avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah et qu'est-ce que la foi en Allah apporte à l'être humain, au croyant dans sa vie. Et qu'on a vu que dans l'unicité d'Allah, on peut distinguer l'unicité d'Allah dans le culte, dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans al-Rububiyya, dans la création, et l'unicité d'Allah dans al-Asma wa Sifat, dans ses noms et ses attributs. Et plus une personne va connaître qui est Allah, plus la personne aura la dévotion nécessaire, aura la concentration pour faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors que si quelqu'un ne connaît pas qui l'adore, quelles sont les sifat, les qualités d'Allah Rabbul Izza, la personne risque de ne pas être motivée ou alors de faire des actes d'adoration de façon un peu traditionnelle, par habitude, par coutume. Et également, quand une personne a une foi solide en Allah Azza wa Jal, la personne est conscient également qu'il ne faut pas désobéir à Allah. Quand quelqu'un, quand une personne connaît également qu'Allah Rabbul Izzah peut sévir, peut punir, que son châtiment est azabun alim, c'est le châtiment douloureux et terrible, la personne va réaliser que désobéir à Allah, c'est aller vers sa perte dans ce dunya et dans le akhira, dans l'au-delà. Également ensuite, on avait vu que la deuxième branche de la foi, c'était « antu'mina billahi wa malaikatihi ». Et on avait vu que le fait de croire aux anges, ça renforce notre iman en Allah, parce que nous allons réaliser la grandeur d'Allah à travers sa création. Quand nous analysons les textes et les nusus qui parlent de la grandeur des malaïka, nous nous rendons compte que subhanallah, c'est un alam, c'est un monde qu'Allah a créé uniquement pour son adoration, et que là nous faisons preuve d'humilité. Comment ces malaïka, ces créatures qui sont gigantesques, on avait vu la description de certains de ces anges, comment ils passent l'intégralité de leur vie à faire l'adoration d'Allah, et jamais ils ne désobéiraient une seconde à Allah, et comment ils, on pourrait dire qu'ils ont une crainte extraordinaire d'Allah Rabbul Izzah, alors que nous, pécheurs comme nous sommes, autant nous nous éloignons d'Allah, nous faisons des péchés, et c'est comme si que on ne ressentait aucunement la crainte d'Allah. Donc, connaître la foi sur les anges, ça va, de manière générale, augmenter également notre iman en Allah. On l'avait vu il y a deux semaines, crois en tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, crois aux livres qu'Allah a révélés par Allah, et on avait vu les kutub qu'Allah Rabbul Izza avait révélés, et on avait mis en avant le fait que notre Coran, le livre qu'Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le livre complet et le seul livre protégé par Allah jusqu'au Qiyama. Et c'est déjà là un motif de fierté, et personne ne pourra se rapprocher d'Allah si ce n'est que par les paroles d'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, nous a dit, subhanallah, nous a transmis que je vous ai laissé deux choses, restez accrochés à ça et jamais vous ne serez égarés. Nos jours n'arrêtent pas de se poser des questions, comment rester dans la religion, comment rester ferme, comment ne pas tomber dans les troubles. Parfois même, parfois les problèmes peuvent venir des péchés, des ahwal, des fitna, de tout ce qui nous entoure, des sources de tentation, mais parfois les problèmes viennent des divergences aussi entre nous. Tellement d'ikhtilaf, on voit lui, il dit faut faire comme ça, lui dit faut faire comme ça, lui dit faut faire comme ça. À un moment donné, on ne sait plus qui obéir, qui suivre. Et on se dit que oui, mais il suffit un temps où il n'y avait pas tout ça, il y avait une seule façon de pratiquer. Là, on a la personne qui pratique de telle façon, et on finit par perdre les pédales, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Et dans chaque mouvement, on voit quelque chose de bien, mais parfois on voit quelque chose de limite, de pas trop acceptable. Et quand on voit des religieux, hein, qui se tire dans les pattes, qui dit lui il est dans la perdition, lui c'est du n'importe quoi, lui c'est de l'enfer, etc. On se dit que Allah Akbar, qu'est-ce que je vais suivre? Ben la meilleure solution, la réponse c'est suivre la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire en sorte que chaque action qu'on va accomplir, on a notre dalil, on a nos preuves, avec ça on est à l'abri. Parce que le jour où Allah Rabbul Izzah nous pose une question sur une action qu'on accomplit, on pourra dire qu'on n'a fait que suivre tes paroles et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a besoin d'aide pour comprendre, et certainement on a besoin d'aide pour comprendre la parole d'Allah, la parole de son prophète, on a les savants qui sont à notre disposition. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. De ce verset, Allah Rabbul Izzah incite les croyants à revenir vers les savants pour leur poser les questions nécessaires afin qu'ils comprennent comment pratiquer leur religion. Il ne faut jamais pratiquer la religion à l'aveuglette. Dit que peut-être c'est comme ça, certainement non. Ça c'est le dîn d'Allah. Ça c'est ce qui te permet d'avoir le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Donc il faut faire d'une façon qui est agréée par Allah et pratiquée par la sunna et pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la semaine dernière, on avait vu wa rusulihi, il y a deux semaines plus tôt, croire au prophète au pluriel. Et on avait vu en gros les noms des anbiya qui sont cités dans le Coran, alayhi salat wa salam. Et on avait vu le respect universel que nous, musulmans, nous avons pour tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors que si vous demandez à un Yahoud, est-ce qu'il respecte Isa, ils ne reconnaîtront pas Jésus. Si vous demandez à un Nasara, une personne de confession chrétienne, catholique, est-ce que vous reconnaissez Mohammed comme prophète, il vous dira non. Parce que s'il le reconnaît, ben, il est musulman comme toi. Il faut juste recadrer son iman billah. D'accord? Donc nous musulmans, nous avons une reconnaissance universelle de tous les anbiya qu'Allah a envoyés sur la terre. Ce qui veut dire que l'islam c'est vraiment une religion d'ouverture qui accepte toutes les croyances, mais qui ramène vers l'obéissance au dernier des prophètes, parce que c'est lui qui va parachever la révélation, Khatamun Nabiyyin, le dernier des prophètes. Et on avait vu, on avait terminé là-dessus, il me semble, la dernière fois, qu'il y a deux événements qui montrent vraiment la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à n'importe quel prophète. C'est premièrement lors du voyage nocturne, lorsqu'ils ont fait la prière en congrégation dans la masjid al-Aqsa, qui a été désigné imam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve bien que c'est le meilleur parmi tous ces prophètes. Également, quand ils ont commencé à discuter entre eux sur différents points thématiques, hein, celui qui avait le plus de science, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'était, on va dire, pas encore arrivé à la moitié à peu près de sa mission, mais il avait déjà beaucoup plus de ilm que les autres prophètes. Quand ils ont discuté de la fin des temps, le seul qui avait un peu d'éléments, c'était Isa alayhi salam, un petit peu on va dire Moussa alayhi salam, mais plus Isa alayhi salam, et celui qui vraiment maîtrisait tout, c'était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Motif de fierté donc. Et également le jour de Qiyama, lors du Shafa'a Am, le premier Shafa'a, le Shafa'a général, l'intercession pardon, général pour toute la Ummah, pour le al-khalq, pardon, pour la création, pour qu'Allah Azza wa Jal veuille bien commencer les comptes. Le seul qui acceptera d'aller voir Allah, d'aller se prosterner devant lui, d'aller intercéder pour l'humanité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que Isa aura refusé, Moussa aura refusé, Ibrahim, Ismaïl et ainsi de suite, jusqu'à Adam alayhi wa sallam, personne en ce jour n'osera demander à Allah quoi que ce soit, de l'aide ou alors d'intercéder ou d'être clément. Tout le monde aura peur. Et ce sera la phrase de base, nafsi, nafsi, alors que le prophète pensera aux autres, et ensuite particulièrement à sa umma. Et puis le hadith shafa'a est encore long, et puis il y a les intercessions, bien sûr, personnelles pour différentes catégories de personnes de sa umma, bien sûr, qui avaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dans leur cœur. Et ça nous ramène directement vers la thématique du jour, la quatrième, l'autre branche de la foi, c'est croire bil yawmil akhir, croire au jugement dernier, croire en l'au-delà. Ça fait partie des arcanes, des piliers de la foi. Et on avait, il me semble, expliqué en introduction que quand on cite Al-Iman Billah, Antu'mina Billahi, il y a très souvent dans le Coran, ou tout le temps, pas très souvent, suivi quelques versets plus tard, croit au jour du jugement dernier, croit en l'au-delà. Et les savants disent parce que pour compléter sa foi en Allah, il faut croire au jugement dernier. Parce qu'une personne, comme on l'avait dit tout à l'heure, une personne qui ne croit pas en l'au-delà, qui n'a pas un réel iman en l'au-delà, c'est cette personne-là qui sera dans le fisq, dans le péché. Maintenant, analysez ou analysons nos problèmes ou les gens qui sont autour de nous, le problème en termes de péché. Ceux qui ne sentent aucun remords et aucun malaise à désobéir à Allah délibérément, ce sont les personnes qui, dans le fond, ne croient pas en l'au-delà. Bien sûr, si on dit quelqu'un, tu ne crois pas en l'au-delà, il est kafir, on est d'accord, parce qu'il ne croit pas une branche de la foi. C'est que la personne a une idée, le concept de l'au-delà existe, mais il n'a pas développé son iman sur l'al-yawm al-akhir. Parce que je vous donne ma parole, assurément, si quelqu'un développe son iman sur l'au-delà, jamais il ne vivrait dans l'insouciance. Quand on voit une personne, un jeune qui peut passer avec sa tantine, main dans la main, devant la masjid, l'heure de la salat, de jama'a, salat al-asr, un samedi après-midi, c'est que ce jeune-là, là, il ne croit pas vraiment au jour du jugement dernier. Parce que s'il était conscient de la remise des livrets de compte, de la façon dont on est ressuscité, de la façon déjà dont l'âme quitte le corps, avec qui on est ressuscité le jour de Qiyama, comment est-ce que on passe devant le mizan, le pont, le sirat, les questions al-ard ala Allah, jamais la personne ne vivrait dans l'insouciance. Jamais la personne n'abandonnerait une obligation. Jamais la personne ne laisserait passer une occasion de se prosterner devant Allah, sachant quelles seront les récompenses pour un sijda, le jour de Qiyama, et sachant que le jour de Qiyama, les gens vont chercher un subhanallah, un tasbih, un alhamdulillah, Allahu Akbar. Les gens vont essayer de demander, de négocier, mais le jour de Qiyama, il n'y aura pas de négociation. Où la personne va s'enfuir, va fuir de son père, de son frère. Parce que chaque personne aura le jour de Qiyama quelque chose qui le préoccupe. Donc, pour revenir, si quelqu'un n'a pas développé al-iman bil-yawm al-akhir, il est tout à fait normal que la personne vive dans l'insouciance de le rafla et que la personne n'éprouve aucun malaise, aucun mal d'être à désobéir à Allah Rabbul Izzah, parce que lorsqu'il fait le péché, il a l'impression de vivre sa vie. Mais quand quelqu'un dit je vis ma vie là, c'est qu'il n'a pas compris que ta vie c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي يَعْبُدُونَ. Allah nous a créé pour faire son adoration. C'est ça ta vie, ô musulman, ô musulman, tu t'appelles musulman, tu es un musulman. Le musulman c'est celui qui a fait istislamu lillah, qui s'est soumis à Allah. Se soumettre à Allah, c'est l'accepter comme Dieu, comme divinité, lui vouer le culte unique. Il n'y a pas le moindre doute, pas d'association, oui, mais faire en sorte que toute ma vie, je reste dans son obéissance et que je ne sors jamais des limites qu'Allah a fixées. Et c'est là qu'on a vraiment le concept du ibadah qui rentre dans la vie. Et c'est là qu'on atteint le marhala, le degré de taqwa également, qu'on adore Allah comme si on était devant lui, avec la conscience 100% qu'Allah est en train de nous voir. Et ça, on ne pourra pas le conforter tant qu'on ne développera pas notre iman en Allah, bien sûr. On ne connaîtra pas les qualités, les sifat d'Allah, bien sûr. Mais également, tant qu'on ne connaîtra pas les étapes de l'au-delà, on ne ressentira pas cette puissance de iman. On va vivre comme n'importe qui, comme si toute la vie c'est comme soit c'est Call of Duty, soit c'est FIFA Soccer 2012, 2013, 2014. C'est-à-dire la vie est un jeu. La vie c'est un jeu, tu branches la manette, tu débranches, tu sauvegardes, tu gardes ta partie et tu as des amis qui viennent et qui sortent. C'est un jeu, ça, tu fais ce que tu veux. Ils mangent, ils boivent, ils rentrent, ils sortent. Il n'y a pas cette yani subhanallah, cette limite dans le temps. On n'a pas la conception du temps, pas besoin de parler de limite. On n'a même pas la conception du temps, que chaque minute, chaque seconde qui passe, c'est une minute, c'est une seconde qui me rapproche d'Allah, qui me rapproche du ard ala Allah, du rendez-vous avec Allah, où je vais rendre des comptes sur mes actions. Ça me rapproche du jour où l'ange de la mort va venir prendre mon âme et je vais mourir. Ça fait peur, ça. Ça fait réfléchir, ça, wallah. Je vous ai déjà dit ça il y a quelques jours, je le répète, parce que ça m'est arrivé il y a quelques jours de cela. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir une douleur profonde au niveau du cœur? Tellement vous avez mal que vous avez l'impression que khalas, c'est fini. Ça arrive, ça, hein? M'est arrivé ça il y a quelques jours, 10 minutes, 15 minutes, je suis resté assis. Attraper le cœur, attraper derrière, tout ça. Là où on attend. Est-ce que vous appelez le 15 ou appelez pas le 15? Est-ce que le car il est au feu ou bien il est encore du col, encore des frosts, il n'est pas encore fini? Allahu Akbar, là tu penses à plein de choses, hein? Là on pense pas au loto, on pense pas au l'argent, au compte en banque, au salaire, non. Là on pense à Allahu Akbar, là si ça va là, vous savez ça va. Là il faut bien réfléchir, est-ce que les prêts, est-ce qu'on a les bagages qu'il faut, est-ce qu'on a les amal qu'il faut, est-ce qu'on n'a pas un peu trop de péché que de rester derrière, est-ce qu'il n'y a pas des dettes à droite à gauche, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu as vexé? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu as froissé? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème avec papa à la maison? Est-ce que tout va bien avec maman? Est-ce qu'il n'y a pas un reproche que maman aurait pu me faire à un moment donné? Est-ce que tout le monde est satisfait de moi? Il a réalisé Alik. C'est dans ces moments-là que parfois, il y a un petit électrochoc, on réfléchit un petit peu à tout ça. Bref, développer iman, bil-yawm il-akhir, mes chers frères, ça c'est la plus belle des choses qui peut être donnée à un homme, à un croyant. Il n'y a rien de plus puissant que d'étudier l'au-delà. Parce que quand on étudie l'au-delà, subhanallah, à un moment donné, le iman, il arrive à un tel degré, c'est comme si on a la conviction que je vais vivre ces étapes. Et donc, on fait la relation, et ça, on parlait tout à l'heure, la relation avec le temps, la relation, les conséquences des actions avec l'au-delà, ça c'est essentiel. Celui qui n'a pas compris là, il comprendra jamais c'est quoi pratiquer din. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-ihtisab. Il y a un terme, ça c'est un terme que j'aime rappeler, parce qu'on avait vu quelques hadiths sur ce sujet aussi. Al-ihtisab c'est quoi? C'est que quand tu as compris une belle action là, tu as la conviction, tu le fais, tu dis que ben, le jour de Qiyama, Allah va m'accorder telle chose. Si tu n'arrives pas à faire la relation entre la bonne action et l'au-delà, ça va pas marcher ça. Si quelqu'un il sort de travail, il est fatigué, alors en plus il fait chaud, ils vont mettre 33, 34 degrés, avec le taux d'humidité dans l'air, c'est terrible. Si vous collez avec le mur, reste collé comme un lézard, désagréable. Tu sors de ton travail, tu arrives, tu as chaud, viens de manger. Vous avez envie une seule chose là, prendre une douche, aller assise, regarde l'actualité, mange des affaires, mange une glace ou je sais pas quoi, mange 2, 3 kilos de litchi bien glacé avant de dormir et rentre au lit. Là, aller faire ça, là, aller remarcher, la pluie tombe, là où ça retranspire et tout. C'est, il faut la race, ça, pour venir. Il faut la foi, tu veux dire. Il faut la foi, il faut la race pour tout ce qu'on veut. Il faut vraiment, il y a quelque chose qui te motive. S'il n'y a pas quelque chose qui te motive, là, ou là, le corps, hein. Ou là, le corps, tout de suite, dit, ah, laisse tomber, il baye. Et puis voilà, peut-être t'as fait salat avant de dormir, peut-être t'as fait après aussi. Pas grave, moi je suis fatigué, Allah il connaît mes fatigués. Allah il connaît fatigué, Allah il connaît plein d'affaires aussi. Allah il connaît sur plus de choses que tu connais sur toi. Il n'y a pas que ça. Mais pas pour autant qu'Allah il connaît plein de choses sur toi, qu'il t'a dit que je te connais bien, donc pas besoin de faire salat. Abadan, le prophète nous a montré. Enfin, dans la révélation, il y a salatul khawf. Salatul khawf, quand c'est en guerre. Comment est-ce qu'il faut faire cela? Tu fais deux rakats et tu vas au front, tu reviens, bref, tout un système, mais cela, on n'abandonne pas. Tu es en voyage, tu es moussafir, khalas, tu fais tayammum. Tu peux changer, tu peux trouver une solution, décaler la manière d'accomplir, mais tu fais ta salat. La salat, il ne rate pas. Bref, si on n'a pas la conviction qu'il y a un retour auprès d'Allah, qu'il y a les promesses du paradis, et quand on étudie l'au-delà, on étudie également al-jannat ou al-nar, oui ou non? Là, les derniers points de Al-Yawm Al-Akhir, il y a le début, la mort, le Hissa, etc. Le Jannah et le Jahannam. Et quand quelqu'un il a vu les descriptions du paradis, là, mon frère, on ne fait pas ce Miss Réunion, Miss Ukraine, Miss Univers, Miss Quartier Chaudron, mais quand quelqu'un a compris Al-Jannah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Allah il donne pour celui qui baisse son regard? Qu'est-ce qu'Allah va accorder pour celui qui se préserve? Qu'est-ce qu'Allah va donner pour celui qui ne boit pas de ce dunya? Pour celui qui n'écoute pas la musique? Celui qui ne fait pas telle chose haram? Subhanallah, midiaou, hein, la personne il ne fait plus, hein. Et que si en même temps la personne apprend, étudie, connaît le Jahannam, description, il va réfléchir deux fois avant de faire le bête, avant de faire n'importe quoi. Donc développer iman, bil yawm il akhir, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il serait impardonnable qu'un croyant ne connaisse pas les étapes de l'au-delà. Pas en détail avec tous les hadiths, tous les ikhtilafs, non. Mais ne serait-ce connaître quelles sont les grandes étapes de l'au-delà et comment ça se déroule et qu'est-ce qu'on doit faire pour le préparer. Prise de conscience de ça, c'est le minimum concernant al-iman bil yawm al-akhir. Ça, c'est important. Une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Quand on avait vu al-iman bil kutub, on avait vu que ce livre qu'Allah a protégé, le Coran, ce n'est pas uniquement les ayat, les versets qui ont été protégés par Allah. Au-delà de cette spécificité du Coran que les versets ont été protégés, il y a le fait que ce din est complet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ce din est kamil. Tout ce qu'on a besoin de connaître se trouve dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont là pour commenter le Coran et pour compléter. Maintenant, quand on analyse notre religion, on voit qu'en plus, hein, qu'elle est protégée, elle est vraiment parfaite. Et les plus belles des valeurs humaines qui ont été peut-être développés des siècles après dans différents courants politiques ou philosophiques ou littéraires ou autre chose, on les retrouve, subhanallah, de façon parfaite dans le Coran. Quand on parle d'humanisme, quand on parle de respect de son prochain, quand on parle d'égalité et de fraternité, toutes ces bases-là, on le retrouve dans le Coran et on le retrouve appliqué dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est l'événement qui a marqué un petit peu le monde il y a quelques jours? Dites-moi. La mort de Nelson Mandela. Merci. J'avais une petite crainte que quelqu'un me dise que la France a gagné un groupe facile. Nous, ça a passé là, les bons pour nous. Dites pas ça, hein? Le plus, ça, c'est un jeu, ça. C'est comme l'époque des Romains, on donnait du pain et des jeux, et les gens, ils oublient les problèmes de la cité. Oui ou non? Oui, hada hua. Donner du pain et des jeux, et on oublie que les Romains, que les nobles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient prêts en argent et des impôts injustes. Halas, neuf sous chay. Parce que l'être humain, il n'est pas trop malin. C'est la psychologie de l'être humain. Donner une belle coupe du monde et ça, et on oublie tout, tout va bien. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Cet homme qui est décédé, d'accord? Un grand homme. Quelqu'un qui a fait des choses énormes et qui a, subhanallah, qui s'est fixé comme mission durant toute sa vie de lutter contre l'apartheid. Comme ça, il dit, l'anglais pas trop top pour nous, l'apartheid, l'apartheid, comme vous voulez dire, là, le racisme d'une manière générale. Et on voit les communiqués, les réactions des chefs d'État, parfois très souvent hypocrites aussi, hein, ceux qui ne le respectaient pas, mais comme il est mort, ben, il faut passer bien avec tout le monde. Ah oui, c'était un grand homme, c'est comme ça. Bref. Et il y a beaucoup de gens qui se disent que c'était quelqu'un d'extraordinaire, ce qu'il a fait, c'était énorme et tout. Oui, entièrement d'accord. Mais c'est pas le premier homme à le faire, hein. Le respect de l'homme, le respect de l'être humain et la lutte contre le racisme, l'égalité des races, ça ne remonte pas à Nelson Mandela, ça ne remonte pas à Indira Gandhi, wala ahad, ça remonte à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris Bilal par la main et il a dit à Abu Bakr, essaie de la franchir si tu as les moyens. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il a donné une somme énorme et Bilal ne valait pas cette somme, un abyssinien. Esclave, descendant d'esclaves, il a acheté une grosse somme que quand les. Son, je ne sais plus le nom de son maître en tête, quand il a vu la somme, il dit Khalas, il donne. Il a vendu, il a franchi. Et les savants disent voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un pas vers Bilal, alors que Bilal représentait quoi pour la société arabe? Vous savez, les Arabes avant, c'était les plus grands racistes. Les Arabes, Jahiliya, je parle, hein, dans la période de l'ignorance, si tu appartiens pas à la tribu de Quraysh, des Banu Hashim, de telle tribu là, viens pas faire des ordres, t'es là, hein? Retourne dans ta tribu là-bas, elle fait des ordres là-bas. Si tu n'appartiens pas aux grandes tribus, ta parole ne compte pas même si tu dis la vérité. C'est pas grave, ça n'a aucune influence. Il faut être noble, la noblesse. C'est ce qu'on a retrouvé dans la société française avant la révolution, ainsi de suite. Bref, la noblesse était très importante. Avoir un nasab, ils disent ça, un nasab, une haute lignée, c'était important. Et dans cette histoire, Bilal représente quoi lui? Il n'est même pas arabe. Il est de peau noire. Abyssinien, il est esclave. C'est-à-dire que son corps ne l'appartient pas. Donc, pour les Quraysh, pour tous les Arabes, c'est un homme, juste parce qu'il ressemble à un homme, mais il ne sert à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a gagné avec Bilal? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un pas vers les chefs de tribu, là, il aurait été intéressant. Mais pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là, dans son cœur, il y a une lumière qu'il n'y a pas chez les autres. C'était Ahad, Ahad, Ahad. La ilaha illallah, Allah est unique. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit le iman briller de son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lui on ne peut pas le laisser. Ça c'est quelqu'un qui a la foi, ça. Ça c'est quelqu'un qui a la lumière de son cœur. Il dit à Abu Bakr de l'affranchir. Et lorsqu'Abu Bakr l'affranchit, vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, bon voilà, tu es affranchi, on ne va plus te torturer, maintenant tu deviens mon esclave. N'importe quoi, tu es libre mon frère. Tu es libre, tu pratiques ton dîn librement. Et qui est-ce qui a eu cet honneur de donner le adhan sur la Kaaba? Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, qui a eu l'honneur d'être le muadhin de Al-Masjid al-Nabawi. Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, le prophète sallam, lorsqu'il est parti au Umratul Qadha, lorsque Bilal est monté, c'est Umratul Qadha ou Fatah Makkah, j'espère ne pas me tromper, le prophète sallam, cet honneur-là, le premier adhan sur la Kaaba, il aurait pu le donner à un cousin, lui, il aurait pu dire à Ali ben Abi Talib, je te donne cet honneur. Il aurait pu donner cet honneur à un Quraysh, à un Hashimi, à quelqu'un d'une haute lignée. Et il y aurait eu un retour aussi. Tu honores une grande tribu, il y a un retour, etc. Les choses avancent mieux. Il aurait pu donner à un de ses gendres. Il aurait pu donner à Uthman, ou il aurait pu donner à Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cet homme qui n'a aucune lignée, aucune existence dans les fichiers des Arabes, on pourrait dire, et qui est pauvre, il n'a pas l'argent, il n'a rien. Il n'a ni noblesse, ni richesse, il n'a rien du tout. Mais il a son iman en Allah qui est extraordinaire, que le prophète, une fois, il dit à Bilal, Bilal, quelle action tu fais? je te vois, j'entends tes pas dans le Jannah. C'est quoi ça? En ce sens, hein, je dis, c'est quoi cette action-là? Dis-moi ce que tu fais. Bilal ibn Rabah, l'homme abyssinien, l'Africain, qui pour le prophète sallam était un homme merveilleux. L'histoire, remontons, relisons l'histoire et voyons les vraies valeurs, où est-ce qu'on les trouve. Et ce n'est pas juste quelque chose d'écrit, les citoyens naissent libres, égaux, en droit, etc. Ce n'est pas juste écrit là. Là c'est écrit et le prophète m'a dit que l'arabe n'a aucun, comment on peut traduire ça, subhanallah, aucun mérite sur le non-arabe ou le non-arabe sur l'arabe. Bref, illa bittaqwa. Et Allah ne regarde ni vos couleurs, ni le noir, du jaune, du rouge. Le rouge veut dire al-ahmar. La seule chose qu'Allah regarde c'est at-taqwa. Ça c'est des paroles ajib qu'on retrouve à travers les versets du Coran, qu'on retrouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'on a retrouvé l'application dans la vie, dans la cité. Si ça restait de belles paroles, on va dire que toutes les philosophies ont développé des thèses magnifiques. Tous les courants politiques, toutes les grandes sociétés ont essayé de faire croire que nous on applique ça, on a un système juste. Jamais une société va dire que nous on est injuste. Nous on n'aime pas les noirs, on n'aime pas les jeunes, on n'aime pas les maigres, on n'aime pas les pauvres. Et je dis, bah, vous êtes malade, ça, c'est, on ne va pas adhérer à ça. Tout le monde essaie de donner une belle image de leur valeur. Mais qui l'applique réellement? Qui l'applique réellement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à l'humanité qu'il n'y a pas de différence. Vous voyez, autant, alhamdulillah, autant les gens ils reconnaissent que cet homme a fait, c'est un travail de titan. C'est un travail énorme, magnifique, et les gens lui rendent hommage à ce qu'il a fait. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais le début de tout ça, la vraie insaniya, l'humanisme, la vraie fraternité, les vraies valeurs, c'était dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors autant on est admiratif, ben on doit être encore plus admiratif. Ouvrons maintenant les livres de Sirat et voyons comment était la société à l'époque du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse. On en est à 26 minutes. Lorsque Jibril alayhi sallam continue à poser les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la réponse complète. Les branches de la foi, il y a croire au jugement dernier, al-yawm al-akhir. Et en introduction, en explication, si on retrouve déjà, c'est où la page, subhanallah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, voilà, al-iman bil-yawm al-akhir, la définition, quand on parle de al-iman bil-yawm al-akhir, pourquoi est-ce qu'on appelle al-akhir, wal-yawm al-akhir, wal-yawm al-qiyama, pourquoi est-ce qu'on appelle le jugement dernier, le jour dernier, لِأَنَّهُ لَا يَوْمَ بَعْدَ, parce qu'il n'y a rien après ça. Ça, c'est la dernière étape de la création. C'est la dernière étape de la création. Avant que nous soyons au monde, sur ce monde vivant, nous existions dans le monde des âmes, dans le monde des arwah, d'accord? Ensuite, Allah nous a donné la vie, le ruh, a été insufflé dans le ventre de notre maman, d'accord, et on est venu au monde. Ensuite, il y a la mort. Ensuite, il y a l'étape de la vie sous la terre, de le qabr. Ensuite, il y a le delà. Et quand on arrive dans le delà, c'est al-yawm al-akhir, la dernière étape. C'est-à-dire, après ça, il n'y a plus rien. Mais en même temps, cette dernière étape, c'est l'étape de l'éternité. Donc, ça, c'est la dernière étape. Et c'est l'étape de consécration, l'étape ultime où chacun va voir les résultats de sa vie. Le résultat de sa vie d'action, sa vie de foi, sa vie de conviction. Voilà, là, on cherchait, on retrouvait les différentes étapes de la vie d'un homme. Et la dernière étape, وَالْمَرْحَلَ الْأَخِيرَ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Parce que le jour de Qiyama, يَسْكُنُ فِيهِ النَّاسُ. Alors, ça fait réaliser, ça fait peur, mais ça fait vraiment prendre conscience. يَسْكُنُ فِيهِ النَّاسُ إِمَّا بِالْجَنَّةِ نَسَلُ اللَّهَ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَإِمَّا فِي النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Parce que le jour de jugement dernier, le jour du Qiyama, dans l'au-delà, il y a deux voies possibles, il n'y a pas trois. Soit les gens vont dans le Jannah, soit les gens vont dans le Jahannam. Certaines sources parlent des gens qui seront dans une phase intermédiaire en attendant Ashabul A'raf, d'accord? Mais en finalité, la situation se débloque et personne ne reste neutre. Les seuls qui restent neutres, c'est les animaux qui sont ressuscités, ensuite ils deviennent poussière. Ils sont entourables. Mais tout être humain va aller soit dans le Jannah, soit le Jahannam. C'est-à-dire que le jour du Qiyama, les choses vont être claires et il y aura une distinction entre celui qui a su mener sa vie et celui qui n'a pas su mener sa vie. Alors, les différentes étapes de l'au-delà, bon, il y a plusieurs étapes, on va peut-être en citer une seule ce soir. Il y a l'étape de Al-Qabr, l'étape de la tombe. Et je ne vois pas pourquoi l'auteur a cité la tombe avant, parce qu'après, il cite quand est-ce quand l'âme quitte le corps. On va plutôt suivre l'ordre qu'on connaît plutôt que l'ordre qui est cité dans l'explication. Une des premières étapes, c'est l'étape où on va passer du monde des vivants au monde des morts. Dans le monde de l'invisible, c'est le moment où l'ange de la mort reprend l'âme. Ça, c'est la première étape. Déjà, quelqu'un qui prend conscience de cette étape, ça fait bouger le cœur, ça. Ça, c'est quelque chose qui, on enlève la poussière, les nids d'araignée, les toiles d'araignée de tous les coins du cœur. Et le cœur redevient brillant, on le lustre et il réalise qu'est-ce qu'il attend. Déjà, quand on analyse des hadiths qui parlent, qui décrivent la venue de Malek al-Maut pour reprendre l'âme, on se rend compte que l'ange de la mort ne se présente pas de la même façon à toutes les personnes qui doivent quitter ce dunya. On a d'un côté celui qui a iman en Allah, l'homme pieux, et on doit nous reconnaître à travers l'homme pieux. On doit avoir espoir qu'on entend comment est-ce que l'ange de la mort reprend l'âme de l'homme pieux. On doit avoir cet espoir que cet homme-là, ce sera Inch'Allah moi. Et il se présente sous un aspect magnifique, angélique, avec subhanallah, des lumières, des nours. Je n'ai pas le texte du hadith là, qui décrive la beauté de l'ange de la mort. Et dans certaines sources, il est dit que le défunt, il pourrait se contenter de la vision de l'ange de la mort comme récompense de sa vie de bonnes actions. Tellement voir l'ange de la mort quand on est un homme pieux, c'est tellement une vision magnifique, exceptionnelle, que ça aurait pu lui suffire comme récompense pour toute sa vie de bonnes actions, de a'mal saliha, tellement c'est quelque chose qui remplit son cœur de joie. Et lorsque l'ange de la mort vient prendre l'âme d'une personne, si je ne me trompe pas de le hadith, il est accompagné d'un cortège de 500 malaïkas, de 500 anges qui le précèdent, et ensuite l'ange de la mort vient. Et les anges annoncent la bonne nouvelle que Allah est content, Allah est satisfait de toi. Et ça nous ramène, on avait cité ça il y a quelques jours encore, dans les versets de Wal-Fajr et plein d'autres versets. Ya ayatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ces versets qui montrent que l'homme pieux, quand il meurt, reçoit la bonne nouvelle. Alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum. Yaquluna salamun alaykum. Ceux qui quittent ce monde, traduction approximative, dans la foi, de la droiture, qu'Allah était content d'eux, les anges, quand ils viennent, ils les transmettent les salams de la part d'Allah. Donc ça c'est un événement, ça c'est une situation magnifique, ça doit être le rêve de chaque personne. Maintenant quand on analyse dans l'autre sens, celui qui a, dans l'autre côté, hein, le muhaddithin, les commentateurs, ils expliquent que c'est soit le kafir, soit le munafiq, l'hypocrite. Et comprenez également que celui qui a la ilaha illallah, qui est resté dans le droit chemin, et celui qui était fasiq, pécheur endurci, qui vivait dans le péché du matin au soir, leur situation sera sensiblement différente. Et quand on voit maintenant l'ange de la mort qui reprend l'âme de celui qui a désobéi à Allah, c'est une vision tellement terrible que ça aurait pu suffire comme étant un azab pour la personne. Et certains versets du Coran décrivent, là on l'a retrouvé, wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna 'adhabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Dans sourate al-an'am et plein d'autres versets encore qui expliquent comment l'ange, hein, il frappe, qu'Allah nous protège, il y avait d'autres versets là, je ne les vois pas, comment l'ange frappe le corps de cette personne pour que l'âme quitte, parce que l'âme est effrayée lorsqu'il voit l'ange de la mort, il ne veut pas quitter le corps, et il se met à le frapper, mais bien sûr, personne ne voit ça. Les gens qui sont autour, on voit une personne inerte, qui ne bouge pas, qui ne soupire pas, se lamente pas, mais il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses, soit des choses de bien, soit des choses horribles qui se passent. Mais comme la personne a déjà un pied dans un monde qui est parallèle et qui nous est inconnu, on ne peut pas voir, ni entendre, ni comprendre. Même si au moment de mourir, on faisait un scanner, un IRM, ou on mesurait la tension, ou un électroencéphalogramme, on ne voit pas ce qui se passe. On peut voir le cœur qui est en train de s'emballer, qui est en train de faiblir, etc. Mais on ne sait pas que l'homme est dans le bonheur ou dans le malheur, il est en train de subir un châtiment. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles. Et volontairement, Allah a fait en sorte que aucun homme, aucun être humain, ni aucun djinn ne peut voir ni comprendre ce qui se passe. D'un côté, c'est une protection, parce que ça aurait été des scènes horribles, effrayantes. Et d'un autre sens, certains savants disent également, pour que la foi reste quelque chose en relation avec l'invisible. Parce que si on voyait quelqu'un qui décrit l'ange de la mort qui vient, il est en train de quitter l'âme, son âme est en train de quitter son corps avec bonheur, et de l'autre côté on voit quelqu'un qui est châtié, on réalise qu'est-ce qui se passe. Si on va près d'une tombe, on voit, on entend la personne en train de hurler le châtiment de la tombe, on comprend et ça fait peur, et tout le monde aurait lu la shahada. Parce qu'on a vu, on a entendu ce qui est en rapport avec l'au-delà. Alors que la règle, c'est qu'il y a une séparation entre le monde de ce dunya et le monde de l'au-delà. On ne doit rien voir, on ne doit rien entendre, on ne doit rien ressentir non plus. Parce que ce sont deux mondes séparés et la foi ne doit pas se baser sur ce qui est perceptible par les sens. Non, autrement ce n'est plus iman bil ghaib. Alors que dans Al-Baqarah, alladhina yu'minuna bil ghaib. Celui qui croit en l'invisible. Maintenant, quand il y a des abrutis qui vont vous dire, oui, tu crois en Dieu, mais tu l'as vu, est-ce que tu l'as entendu, est-ce qu'il t'a parlé? Tu dis que ben, ça, c'est dans ton monde virtuel, ça. Ça, c'est dans ton monde que ça se passe comme ça. Dans mon monde, à moi, là, c'est un iman. Le iman, c'est tu ne vois pas Allah, tu n'entends pas Allah, tu n'as pas ressenti, voilà, Shay, mais tu crois en lui. Et ça, c'est la plus belle preuve de foi que de croire en celui que tu ne vois pas. Tu donnes ta vie pour lui, alors que tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais entendu, voilà, Shay. Ça, c'est la beauté de iman. D'accord? Donc ça c'est la première étape, le moment où l'ange de la mort reprend l'âme. Après il y a des versets, il y a des fois où on n'aime pas trop écouter ça, parce qu'on dit ça fait peur, il ne faut pas faire peur aux gens. Mais je pense que vous, avec surtout Ben Jeune, tout ça film de roi, regarde là, il n'y a pas peur ça. Quand on voit les versets qui parlent de Al Pharaon, de la famille, de la tribu de Pharaon, qui était la tribu de Pharaon? Les gens les plus puissants sur la terre, les plus riches, la plus grande armée de ce dunya, c'était l'équivalent des plus grandes puissances comme il y en a à notre époque, d'accord? Et comme ils n'ont pas cru en Allah, avant, subhanallah, dans la tombe, même, annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa 'ashiya, wa yawma taqumu as-sa'a, lorsque le qiyama aura lieu, le de là, adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Allahu akbar. Le qiyama commence, toute la famille de Pharaon, qu'il entre directement dans les pires des châtiments. Nassallallahu salamata wa al-afiya. Donc ça c'est situation ahwal de ceux qui ont désobéi à Allah. Et leur ahwal, leur situation, leur punition commence déjà dans la tombe. Nous savons les hadiths de base qui disent que la tombe c'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Mais ça c'est des paroles, des hadiths qu'on a appris à madrasa quand on était jeune. Mais ce sont là des réalités. Mais ce ne sont pas des réalités qu'on va voir. Que si tu déterres un homme, ou alors si quelqu'un dit, bon, je veux pas que la tombe écrase le corps de telle personne et tout, on va mettre des on va passer à Ben Ferraille là, pour construire le bâtiment, il faut oublier, des trucs de fondation, on va, des échafaudages, voilà, on va mettre ça, on va bloquer, on va faire couler un truc en béton armé avec du cuivre, la tombe là, il crase pas l'île là. Ça n'a pas fait panini avec mon papa, avec mon grand frère, avec, non, il crase pas l'île, voilà. Nous fait un coffrage qui ne crase pas. Même si tu mets caméra thermique, tu examines et tout, ça n'a pas bougé d'un centimètre. Mais ça, c'est un autre monde. C'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce qui se passe de le dunya. Là-bas, c'est un alam, c'est un monde totalement différent. Tu t'imagines pas. N'allez pas, pas besoin d'aller loin. Enfin, juste pour avoir une idée, mais c'est en décalage. Hein, vous prenez un téléphone portable, d'accord, un smartphone. Là, quand il est éteint comme ça, vous voyez quoi? Un morceau plastique noir, n'a rien. Mais il y a 2300 images dedans, il y a 45 vidéos, il y a 25 heures d'écoute, il y a tellement de choses dedans. Mais toi, quand tu le regardes, ça c'est comme un petit savon Marseille couleur noire. Ou alors c'est un, je sais pas, c'est quoi, un calculatrice, c'est rien ça. Vous voyez juste, l'exemple est un peu bête, hein, mais vous voyez le décalage. Et nous, on connaît haqiqa, la réalité. Tu l'allumes, tu mets ça sur un ordinateur, tu sais toutes les données qu'il y a dessus, mais quand c'est éteint, c'est un morceau de plastique. Là, vous voyez le décalage, alors qu'il y a une réalité derrière. Donc, vous voyez dans la tombe, un petit carré, le gars, il est là même, il n'a pas bougé. Quand vous voyez Bones, quand vous voyez, comment ça s'appelle l'histoire, police scientifique, il redétait le gars, pour, je sais pas, tout ça de temps-là. Il dit, ben, elle n'a pas changé, quel azab, là. Il est bien, il n'a pas de problème et tout. Non, mais ça, c'est pas des choses hissi. C'est pas des choses qu'on voit. C'est des choses en rapport avec l'au-delà, c'est-à-dire un monde parallèle. La définition de parallèle, c'est ça se suit, mais ça ne se rejoint jamais, même pas de 1 cm. Si à un moment donné, ça se rejoint, c'est qu'il n'est pas vraiment parallèle. C'est qu'il y a un décalage. D'accord? Ce sont des mondes qui ne se rejoignent pas. Donc, ça c'est la première étape, on pourrait dire le passage entre ce monde et l'au-delà. Déjà, si quelqu'un, là on l'a cité, subhanallah, en 5 minutes, de manière respectueuse, il y a des chapitres et des chapitres sur la tombe, la vie, après la vie de la tombe, les questions, etc., etc. Et nécessité, le but c'est juste de vous faire comprendre que c'est une étape qui existe, et puis chacun va essayer de travailler ça, de rechercher la connaissance pour approfondir. Une fois, on terminera avec cette anecdote, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient avec les compagnons, ils avaient enterré un sahaba. On va dire que Allahu Akbar, il a enterré un sahaba, subhanallah. Personne qui a vu le prophète, c'est l'homme le plus heureux au monde. Il n'a pas de souci à se faire. Le prophète reste un peu plus longtemps. Et à un moment donné, il dit à quelques sahaba qui étaient là, Oud'ou, en ce sens, Oud'ou li akhikum bi thabat, fa innahu al'ana yus'al. Demandez doua qu'Allah accorde thabat, la fermeté à votre compagnon. Là, à là, les anges sont en train de lui poser des questions. À ce moment où je parle, les anges sont arrivés et ils sont en train de lui poser les questions, les trois questions. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et que connais-tu de cet homme? On va dire que mais ça c'est sahaba ça. C'est une formalité. Nous-mêmes on dit si l'ange de la mort, il vient tout les anges, tout de suite me répondre à lui. Il est tellement facile et tellement évident. Oui, n'importe qui te pose ça au coin de la rue, oui. Mais quand tu es dans la tombe, c'est pas la langue qui parle. Autrement, Guétrichou qui écrit un petit papier, comme nous fait l'école et tout ça. Non. Quand on est dans le monde de l'au-delà, il n'y a plus de nifaq, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus rien de caché. C'est que la réalité, la vérité qui sort. Et ce qu'il y a de le cœur, c'est ça qui sort. Moi, j'aime bien l'exemple de certains savants. Vous avez pris cet exemple, vous prenez une éponge, d'accord? Vous buvez de l'eau. Quand vous pincez, qu'est-ce qui sort? De l'eau. Sous la buve, du jus d'orange ou du jus renversé. Quand on pince, quoi, il sort du jus d'orange. D'accord? Et ainsi de suite. Il y a ce que tu as buvé, ce qui est contenu dans l'éponge, quand tu le presses, c'est ça qui sort. Même après plusieurs heures, plusieurs minutes ou autre chose, d'accord? Il y a que ce que la personne a cumulé, a entassé dans son cœur, ce qui comptait vraiment pour lui, ben c'est au moment, c'est dans la tombe, c'est ça que ça rentre. En tout cas, le prophète n'aurait pas dit au sahaba, demandez-toi à Allah, qu'Allah facilite la réponse pour ce sahaba. Alors que c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, à chaque fois qu'on va, le ibra, on va conclure avec ça. Qu'est-ce qui va nous aider à développer la foi en l'au-delà? Et la première étape, c'est le passage en ce monde et l'au-delà. Premièrement, rendre visite aux malades à l'hôpital. Allez rendre visite aux gens qui sont mourants. Et ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réaliser que, subhanallah, un telle personne qui était bien, qui était en parfaite santé, maintenant il est dans une situation comme ça, il est en train de mourir. Ça, c'est ajib. On a rendu visite il y a un mois et demi à un vieux monsieur algérien, son fils nous avait contacté, malheureusement son garçon n'est pas musulman, il avait dit que voilà, mon père est musulman et il est dans une session, là, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pour les personnes âgées qui vont mourir. Gériatrique, exactement. C'est pas quelqu'un de forcément malade, hein. C'est quelqu'un que les vieux 95-96 ans, que khalas, on peut plus rester à la maison, il a besoin d'assistance, et qu'on attend en basse les jours pour mourir. Donc, avec un collègue, on est parti, on a parlé un peu avec la personne, et on voit la personne est complètement abasourdi, il comprend pas, il vous entend pas rien. Et une semaine, deux, trois semaines après, je reçois un mail de la personne, parce que j'avais laissé mes coordonnées et tout. Et la personne, le fils me dit, merci, vous êtes venu voir mon père est mort. Et on a rapatrié son corps en France pour l'enterrement et tout et tout. Voilà. Et là, subhanallah, le rendre visite à quelqu'un qui est en phase de les derniers moments de sa vie, franchement, ça fait réfléchir, premièrement. Et ça fait prendre conscience également des bienfaits, des ni'ma qu'on a. Deuxième chose que le prophète m'avait conseillé, rendre visite aux tombes. Fainaha. Ça vous rappelle l'au-delà. Au début, pour ça, il ne voulait pas trop, et après, il a dit que rendez visite aux tombes, ça vous rappelle l'au-delà. De temps en temps, on va au cimetière, on voit, on se rend compte que telle personne, on voit les plaques, on voit les gens. Bon, les plaques, il y a divergence dessus, mais on voit les gens qui sont morts, ils ont quitté, lui faisait la salat ici, lui c'était quelqu'un, c'était mon voisin. On se rend compte que, subhanallah, en finalité, la personne n'échappe pas. Hein. Comment ici, comment en France, comment Madagascar, comment Mayotte, ou dans l'avion, ou dans le bateau, dans la barge, ou je sais pas, quoi ça, ben pour moi, il est mort. Hein. Et il n'y a pas un homme qui est venu sur la terre qui n'est pas mort, à part Isa alayhi salam. Et puis il va venir pour mourir comme tout être humain aussi. Donc ça aussi, ça fait prendre conscience. Et autre chose, ça c'est un petit peu plus cru, d'accord? Essayer d'assister au sakaratul maut. Aïe, si quelqu'un il voit ça là, pareil, hein, vous voyez plus les choses de la même façon. Assister à l'agonie d'une personne. Je vous dis ça, vous allez dire que c'est bête. C'est l'exemple un peu décalé. Il y a un pigeon, chez moi, depuis ce matin, il y a Sakarat. Il vient de mourir, là. Sakarat avec le cou qui est en arrière, et on voit, il est en train d'agoniser et tout. En sortant de Salatul Fajj, j'ai vu le pigeon, subhanallah, il était en couple avec, je sais pas si c'est mâle ou femelle, l'autre était à côté, il était resté à côté de lui, et voyez, l'autre pouvait plus voler, ça touche un peu, on est des êtres humains, on a des sentiments. Et quand je reviens après déposer les enfants à l'école, on se rend compte que l'autre pigeon est parti. Parce que le monde des vivants reste avec le monde des vivants, le monde des morts reste avec le monde des morts. Il est resté avec son compagnon pour voir s'il peut voler, il voit, il tourne autour, je voyais, il tournait, il était affolé, après il est parti. Parce qu'il a compris que l'autre ne pourra pas le suivre pour continuer la vie. Et là, après, en allant à Madras, après-midi, il est là, en sortant, là je ne le vois plus. Donc, il est mort et que quelqu'un a pris, il l'a jeté, il l'a mis quelque part. Bref, et un animal, on regarde depuis le matin jusqu'au soir, on regarde Sakarat al-Maut. Et on voit la souffrance, le cou est comme ça, il se débat et tout. Sakarat al-Maut. Maintenant, c'est un animal. Maintenant, pensez à quelqu'un, d'autant plus si quelqu'un de proche, vous voyez quelqu'un en train de mourir, la souffrance, les difficultés, ça se fait réaliser que. Qu'on le veuille ou non, on va vivre ça. Que ce soit ici, que ce soit là-bas, que ce soit à l'un de prothèse d'un accident de voiture ou d'une mort naturelle, d'une maladie, je ne sais pas quoi, on vit Sakaratul Maut. Il n'y a pas une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu Sakaratul Maut, oui ou non? Il trempait ses doigts bénis dans de l'eau, il passait sur son visage, il disait quoi? Wallahi inna lil mauti la sakarat. Je jure par Allah que la mort, c'est dur. La mort est précédée d'une agonie, c'est quelque chose de terrible. Il explique à sa Oumma. Et encore le prophète sallam, subhanallah, il a reçu le traitement de faveur par excellence de l'ange de la mort, avec la plus grande douceur. Mais malgré ça, le prophète décrit que le sakarat, l'agonie, quand l'âme quitte le corps, c'est quelque chose de terrible, de douloureux, d'insupportable presque. Maintenant, chacun doit réfléchir, comment est-ce que je veux quitter ce dunya? En plus de ces difficultés, comment est-ce que je veux accueillir l'ange de la mort? Quel genre de malik al-maut je veux voir? Un ange qui, subhanallah, me réconforte et qui me conforte par rapport à ma vie et qui m'annonce la bonne nouvelle qu'Allah est content de moi, ou alors autre chose et qu'Allah nous protège, qu'Allah nous préserve. Donc mes chers frères, développer iman bil-yawm il-akhir, ça fait partie des piliers de la foi et c'est quelque chose d'essentiel pour consolider toutes les branches de la foi et avoir encore plus iman en Allah et que notre vie de ibadah prenne vraiment un sens. Parce que comme on dit encore une fois, si on n'a pas fait la relation entre mon accomplissement de la salah et le qiyama, on ne pourra pas continuer à faire cela. Si je n'ai pas pris conscience entre l'abandon d'une salah et les conséquences du jour de Qiyama, je vais abandonner la salah quand il y aura une difficulté, quand je vais être gêné par rapport aux gens, quand il y a quelque chose qui tourne par rond, je ne vais pas faire pour telle raison, parce que je n'ai pas vraiment réalisé c'est quoi le delà. Que Allah nous accepte, l'intawfiq, à moi-même en premier, à nous tous de comprendre qu'Allah augmente notre iman et qu'Allah nous permette d'acquérir encore plus de compréhension de tout ce qui a trait au iman pour pouvoir, inshallah, transposer ça dans nos a'mal, dans nos actions, afin que nos actions aient plus d'ampleur et plus de dévotion et plus de qualité. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.